Pour l'instant, ils me disent qu'ils vont être des observateurs intéressés.
Ben c'est...
qui sont ouverts, mais eux, ce qu'ils craignent, c'est qu'il y a des IPS qui s'en aident dans le privé. C'est ce qu'on me soulignait ce matin. Mais ils ont hâte aussi de voir si les IPS vont avoir les mêmes contraintes que les ovnis. Est-ce qu'il y a un nombre de patients au minimum qui devront voir les suivis? On me faisait valoir qu'un médecin de famille qui prend en charge un patient, c'est presque un contrat à la vie à la mort, là. Ben, une IPS, par exemple, qui décide de changer de clinique et tout ça, est-ce qu'elle devra assurer le suivi de ses patients? Il y a des questions qui sont intéressantes, puis je vais même en ajouter une autre. On me disait que les IPS avaient peut-être tendance à davantage référer à des médecins spécialistes. Des fois, des cas où l'OMNI dirait « Non, pas besoin, semble-t-il qu'il y ait un peu plus de références. » Donc, est-ce qu'on peut se ramasser avec un dommage collatéral de davantage d'actes qui sont pas utiles? Bref, c'est une bonne idée, ça va faire du bien, mais il y a quand même des questions qui demeurent en suspens.
On va essayer d'en poser quelques-unes tantôt. Et on surveille la visite du premier ministre français, Gabriel Attal, à l'Assemblée nationale.
Oui, absolument. Évidemment, c'est pas comme une visite du président de la République, c'est pas comme si Emmanuel Macron était là, mais c'est le numéro 2 quand même de la France que plusieurs voient comme un successeur possible, crédible à Emmanuel Macron à la fin de son deuxième quinquennat. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette rencontre-là. Bon, évidemment, on va scruter chaque mot de son discours pour voir s'il va s'écarter du traditionnel ni ingérence, ni indifférence.
Mais il ne trouve pas qu'on a, moi, je remarque ça depuis longtemps, cette espèce de réflexe d'aller chercher l'approbation de la France à tout prix, là. Tu sais, c'est comme si on a besoin que la mère patrie nous donne une bénédiction sur nos projets de société.
Je suis tellement d'accord avec toi.
Écoute...
On peut-tu faire nos petites affaires, nous autres mêmes, là?
Je me souviens d'un documentaire sur la diplomatie du Québec. C'était les frères Millot qui avaient fait ça il y a très longtemps. C'était à l'époque du premier gouvernement du Parti québécois. Et il y avait Raymond Barre qui était premier ministre de la France. Je me souviens d'une scène... Complexe des Jardins, basilaire, il y a la foule en bas, Monsieur Lévesque est là, Raymond Barre, et René Lévesque qui glisse à l'oreille de Raymond Barre, pourriez-vous nous lancer un vive quelque chose? Tu sais, c'était comme, après le général de Gaulle, c'est-tu moyen que vous repreniez la rondelle comme ça? Mais bon, alors on verra ce qu'il y a à nous dire.
Oui, le message économique aussi, bon, l'accord de libre-échange, ouais. Canada, Union européenne, ça se déplace de façon assez imposante, ces gens-là. On m'a parlé d'une prévisite de 30 personnes, incluant la directrice de cabinet, directrice de cabinet adjointe du premier ministre. Dans sa visite, il y a le médecin privé qui est là, il y a les aides de camp qui sont là. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnel autour du premier ministre qui se disent « Oh boy, nous autres, c'est pas mal plus frugal que ça quand on se déplace à l'étranger. »
Mélanie Joly, elle est ministre des Affaires étrangères, puis elle se promène toute seule, ou presque.
Oui, ça.
C'est ce qu'on se passe tête. Merci beaucoup.
98.5 Montréal. À Rimouski, c'est CFIX FM 93.
Réveil Rimouski à CFIX FM 93. Primeur, nouvelle régionale, réseaux sociaux, sport local, opinions et commentaires. Rimouski et l'Est du Québec. Réveil Rimouski et votre émission d'information du matin.
Il est 9h18 minutes. Vous écoutez Réveil Rimouski. Dernière entrevue de la journée. On a la chronique financière avec Pierre-Yves McSween aussi à moins 20. Mais l'entrevue locale, ben, c'est la dernière de Rimouski ici là, en direct de CFIX. Et j'ai l'honneur de recevoir ce matin donc le conseil régional de la CSN, la Fédération de l'industrie manufacturière et le syndicat national de la sylviculture. Donc monsieur Louis Bégin, là, qui est donc directeur de ce syndicat-là, est avec nous par voie téléphonique. Monsieur Bégin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Turcotte.
Voilà.
Merci pour l'honneur.
Ben oui, ben c'est ça, c'est le fait. Il y avait conférence de presse hier à Rimouski concernant là les travailleurs sylvicoles. Et vous avez utilisé là une très belle expression. Ce sont des jardiniers de la forêt, ces gens-là. Et vraiment, là, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste vous féliciter pour ce terme-là, donc qui est donc plus vrai que nature.
Ben merci. Bon, effectivement, la conférence de presse était pour mettre en lumière une problématique qui a présentement avec le groupe de sylviculture et surtout dans le Bas-Saint-Laurent, parce que le Bas-Saint-Laurent a innové avec une approche unique au Québec et elle a donné des résultats. Cette approche était pour essayer de régler des problématiques qu'on avait. Premièrement, la rétention de main-d'œuvre de main-d'œuvre comme on voit partout. Mais eux aussi, ils étaient, c'était accompagné de d'autres problématiques ciblées, c'est-à-dire les conditions de travail, ainsi que la rémunération. Comme on sait, c'est une rémunération à la pièce, c'est-à-dire à l'hectare, tout dépendant du volume qui est fait dans la journée, les gens sont rémunérés. Et ce projet-là, pour ce qui était l'innovation, elle était paritaire, l'enveloppe, elle vient du gouvernement, et après, elle était décidée paritairement. Il y avait des balises qui ont été créées. Exemple, une nouvelle personne qui arrive en apprentissage, c'est sûr qu'elle n'a pas le même rendement qu'une personne d'expérience, mais par contre, il y avait un salaire fixe qui était prévu à ce moment-là pour permettre justement à la personne d'avoir un bon salaire dans le mode apprentissage. Également, au bout du spectre, lorsqu'on est avec des travailleurs âgés, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont 10 ans présentement dans nos forêts en train de faire ce travail-là. Et ces gens-là, c'est sûr que le rendement ne se compare pas à quelqu'un d'âge moyen. Fait que, bref, ça faisait en sorte aussi, eux aussi, bénéficiaient d'un salaire de base pour pouvoir avoir un salaire intéressant, mais qui se permettait aussi de transférer les acquis. Et on allait chercher aussi quelques conditions de travail intéressantes, genre un REER collectif. On donnait des sommes d'argent pour les outils. Il faut savoir que ces gens-là, exemple des coupes bordures ou des équipements, des débroussaillages, ils en passent plus qu'un par année. Fait que, bref, il y avait ça. Puis aussi, le fait de se rendre en forêt, bon, il y avait une indemnité par rapport à l'essence. Bref, ce projet-là a marché.
Oui,
a marché dans le sens qu'on a...
Oui. Pourquoi on ne veut pas l'étendre à la grandeur de la province? Ce serait une solution?
Ça serait une excellente solution. C'est la question qu'on pose justement au ministère. Pourquoi? On n'a pas de réponse pour le moment. Et lors de nos... il y a eu dernièrement des tables régionales sur l'avenir de la forêt organisées par le gouvernement. Et j'en ai cité quelques-unes dans d'autres régions. Et les autres régions posaient la même question. On aimerait avoir ce projet-là. Il est unique au Bas-Saint-Laurent. Il a porté fruit. Il est génial. Et on aimerait aussi l'étendre, mais aussi le reconduire au Bas-Saint-Laurent. Et c'est là la problématique. Parce qu'on a une problématique pour justement le faire revivre, ce projet-là.
Oui, donc parlons de la dureté du métier aussi. L'expérience ne s'achète pas là-dedans. Vous me disiez tantôt qu'il y a des gens de 70 ans là, qui sont dans le bois avec leur poche et leur petite trousse d'arbres à planter. Là, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ce métier-là. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Là, c'est un métier presque qui est en voie de disparition. On doit aussi bien souvent recourir à la main-d'œuvre étrangère pour travailler dans ce secteur-là. Comment rendre ce secteur-là plus attirant?
Bon, effectivement, on dit planter des arbres, mais c'est aussi d'entretenir après la forêt pour l'aider. Vous savez, on est face au changement climatique et ces gens-là nous permettent, ça l'expression de jardiner la forêt, nous permettent de préparer la forêt à traverser ces défis-là. Et c'est de maintenir, exemple, que les jeunes pousses, lorsqu'on a coupé des arbres, pour s'assurer justement que la régénération de la forêt va être au maximum, ben, ces gens-là font aussi de l'éclaircissement pour faire en sorte que les jeunes pousses aient un maximum de chances de réussite pour la régénération.
Oui.
Et oui, vous l'avez dit, la problématique des travailleurs, il y en a de moins en moins en forêt parce que c'est moins attractif. Mais faire venir des travailleurs étrangers, c'est un plaster sur le bobo parce qu'ils sont liés pour 2 ans ou 3 ans avec les contrats. Mais en bout de course, si le salaire est moins intéressant, puis de laisser sa famille pour aller travailler continuellement en forêt, d'être loin, ben ils vont faire comme les travailleurs d'origine québécoise, puis qui vont aller vers d'autres cieux, tout simplement, parce que c'est des employeurs qui cherchent des travailleurs. Il y en a
partout.
Dans le Bas-Saint-Laurent.
Oui.
Exactement.
Effectivement. Ça serait une solution. Quelles actions la CSN, d'ailleurs, va mettre en branle? Quelle pression on peut faire auprès du gouvernement?
Ben, je vous dirais, ça en est une, le fait de faire la conférence de presse pour les travailleurs du Bas-Saint-Laurent dans le comté de la ministre. Je pense que c'est un poids quand même intéressant de voir que il y a une problématique majeure. Et on pense pas que c'est de la mauvaise volonté. On pense que c'est une mauvaise analyse. On n'a pas vu les impacts lorsqu'on a pris une décision par rapport aux taux qui ont été octroyés. Et c'est pour ça qu'on lance un cri pour dire on peut-tu se parler pour résoudre ça, parce que c'est l'avenir de la forêt qui est en jeu. Parce que à court terme, d'acheter des avions incendies, c'est une excellente idée. Il faut se protéger pour à court terme pour les feux, mais à long terme, il faut préparer la forêt par rapport à ces défis-là, et c'est ces gens-là qui la protègent, qui vont faire le virage pour justement trouver des nouvelles façons d'aménager la forêt. ils vont jardiner la forêt pour faire en sorte qu'elle soit capable de résister aux défis qui s'en viennent, soit les insectes, soit les feux de forêt.
Et quels sont, quelles sont, M. Bégin, là, les caractéristiques de la forêt maintenant avec les changements climatiques par rapport à ce qu'elle était peut-être il y a une cinquantaine d'années? Est-ce qu'il y a des nouvelles essences d'arbres qui vont apparaître dans le coin? Est-ce que ça change aussi partout, même en forêt?
Oui, ben même déjà, vous avez déjà, je sais que la population l'a déjà vu, on commence par la faune, là on voit des animaux qu'on voyait pas. Vous avez un exemple, on chasse maintenant le chevreuil au lac Saint-Jean, vous l'avez jamais vu. Et s'il y a une migration d'animaux, il faut se dire qu'il y a aussi une migration de la flore, et on commence à voir certaines aussi plantes qui s'étendent, et les zones de rusticité évoluent aussi, et c'est sûr qu'il va y avoir, exemple, comme l'érable va aller plus au nord, il va y avoir des feuillus qui vont prendre plus la place dans la forêt boréale qui était traditionnellement uniquement des conifères. Et c'est ça qu'on assiste. Ça fait que donc, comment qu'on prévoit à l'avenir qu'on va exploiter la forêt ou trouver des nouvelles niches pour les produits forestiers si la niche qu'on a présentement va se déplacer? C'est là qu'il y a tout le défi. C'est pour ça qu'il faut regarder loin d'avance pour justement planifier demain comment va être la forêt.
Oui, ça pourrait coûter beaucoup plus cher aux entreprises d'aller chercher le bois plus au nord pour le ramener dans les scieries au sud, là.
Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on demande, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui se font. Exemple, c'est intéressant, pour les feux de forêt, les conifères sont plus aptes à prendre en feu.
Oui.
Fait que d'avoir, exemple, des barrières de feuillus, ça serait vraiment intéressant pour aider justement à la pour circoncire les feux. Mais par contre, ce qu'il faut développer, que fait-on avec ces feuillus-là qu'on a plantés? Il faut que ça devienne aussi une ressource intéressante. Fait que c'est ces recherches-là qu'il faut pousser, puis qu'il faut après appliquer sur le terrain. Parce qu'un arbre, c'est pas dans 2 ans qu'on le récolte.
Non.
15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Fait qu'il faut décider là, pour voir intervenir, quel va être au niveau de la forêt.
Merci. Oui, un arbre, il faut qu'on le récolte, et aussi, il faut qu'on replante la forêt. Puis ça, ben, ce sont les sylviculteurs, ces braves travailleurs et travailleuses aussi. Je connais une femme, d'ailleurs, qui est spécialisée là-dedans, qui va même dans le assez au nord, là, dans le coin de Chibougamau, l'été, là, pour planter. Oui. Donc, c'est pas un métier qui est réservé là, strictement aux hommes.
Non. Puis, pour au niveau de la sécurité, ce qu'on a observé depuis les dernières années, la recrudescence des insectes piqueurs aussi.
Ça,
c'est parce qu'ils nous en parlent beaucoup.
Oui, effectivement, c'est pas simple. C'est moi, je serais pas capable de toffer là une demi-heure là, surtout là dans le mois de mai, juin, à planter des arbres à cause des mouches et tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Bégin. Vous êtes de la Fédération de l'industrie manufacturière au syndicat national de la sylviculture à la CSN. Merci beaucoup pour cette entrevue là et je vous donne le mot de la fin. Donc quelques pressions sur notre ministre qui nous écoute peut-être ici.
Ben, les canaux, nous, sont tous ouverts pour avoir une rencontre productive pour faire en sorte que le Bas-Saint-Laurent devienne un leader au niveau des pratiques environnementales au niveau de la forêt.
Merci infiniment. Fort intéressant discuter de forêt avec un spécialiste comme vous. Merci infiniment. À la prochaine.
Merci, bonjour.
Voilà, donc, Louis Bégin de la CSN, donc le président de la FIM, donc de la Fédération de l'industrie manufacturière à la CSN. 9h28 minutes, on s'arrête pour la pause commerciale. Les nouvelles régionales en rafale s'en viennent. On aura aussi un peu de sport et bien sûr la chronique financière aussi avec Pierre-Yves McSween au micro de Paul Arcan.
Réveil Rimouski à CFX 93. Réveil Rimouski, la suite dans un instant.
J'ai une belle expérience à vous partager. Vous connaissez la pub. Vous voulez du nouveau dans la pièce maîtresse de votre maison? Faites comme moi. Appelez Michel de Comptoir ML. Avec lui, c'est facile. Il passe à la maison. Ensemble, on a pris le temps de bien analyser la cuisine et sélectionner les meilleures options possibles selon mon budget. Michel prend sous son aile tout le processus de transformation de A à Z et voilà, tout est au goût du jour. Sans hésitation, je vous recommande Michel de Comptoir ML au 88 509 85 49. Ma visite va va être renversé.
Son X Plus Rimouski vous offre son kiosque de téléphonie cellulaire Vidéotron avec des produits tels qu'iPhone, Motorola, TCL, Google et Samsung avec sa gamme S23. De plus, profitez des forfaits incluant 25 gigs par mois et une banque annuelle de 100 gigs supplémentaires, le tout à partir de seulement 40$ par mois plus taxes, appels et textos illimités au Canada. Certaines conditions s'appliquent. Détails en magasin au 150 Avenue Belle-Île ou au sonxplusrimouski.com.
Vous cherchez un local idéal pour votre entreprise? Bien situé sur la rue Saint-Germain, en plein centre-ville de Rimouski, très accessible en avant ou en arrière avec une superficie de 1252 pieds carrés. Pour plus d'informations ou une visite, contactez Danny au 418-727-5960.
Parce que nous tenons à nos clients. Alignement PM.